Les débuts de ce roi qu'on appelle le Bon.
Le ciel du roi Jean, certes, je le connais. Je me suis maintes fois penché dessus. Si je prévoyais, bien sûr, je prévoyais. C'est pourquoi je me suis si fort dépensé pour empêcher cette guerre, sachant qu'elle lui serait funeste, et donc funeste à la France. Mais aller faire entendre raison à un homme, et surtout à un roi, dont les astres font barrière, précisément, et à l'entendement, et à la raison. Le roi Jean II, à sa naissance, avait Saturne culminant dans la constellation du Bélier, en milieu du ciel. C'est configuration funeste pour un roi, celle des souverains détrônés, des règnes qui s'achèvent hâtivement ou que terminent de tragiques revers. Ajoutez à cela une lune qui se lève dans le signe du cancer, lunaire lui-même, marquant ainsi une nature fort féminine. Enfin, et pour ne vous donner que les traits les plus voyants, ceux qui sautent aux yeux de tout astrologien, un difficile groupement où l'on trouve le Soleil, Mercure et Mars étroitement conjoints en taureau. Voilà un ciel bien pesant, qui compose un homme mal balancé. Mal et même assez lourd dans les apparences, mais chez qui tout ce qui devrait être viril est comme castré, jusque et y compris l'entendement. En même temps, un brutal, un violent, habité de songes et de peurs secrètes qui lui inspirent des fureurs soudaines et homicides. Incapable d'écouter avis ou de se maîtriser soi-même, et cachant ses faiblesses sous des dehors de grande ostentation. Au fond de tout, un sot est le contraire d'un vainqueur ou d'une âme de commandement. De certaines gens, il semble que la défaite soit l'affaire principale, qu'ils en aient un secret appétit et ne connaissent de cesse qu'ils ne l'aient trouvé. Être battu complet à leur âme profonde. Le fiel de l'échec est leur breuvage préféré, comme à d'autres l'hydromel des victoires. Ils aspirent à la dépendance et rien ne leur convient mieux que de se contempler dans une soumission imposée. C'est grand malheur quand de telles dispositions de naissance tombent sur la tête d'un roi. Jean II, tant qu'il fut monseigneur de Normandie, vivant sous la contrainte d'un père qu'il n'aimait pas, parut un prince acceptable, et les ignorants crurent qu'il régnerait bien. D'ailleurs, les peuples, et même les cours, toujours portés à l'illusion, attendent toujours d'un nouveau roi qu'il soit meilleur que le précédent, comme si la nouveauté portait en soi vertu miraculeuse. À peine celui-ci eut-il le sceptre en main que ses astres et sa nature commencèrent de montrer leurs malheureux effets. Il n'était roi que depuis 10 jours, quand M. d'Espagne, dans ce mois d'août 1350, se fit battre sur la mer, au large de Winchelsea, par le roi Édouard III. La flotte que Charles d'Espagne commandait était castillane, et notre Sieur Jean n'était pas responsable de l'expédition. Néanmoins, comme le vainqueur était d'Angleterre, et le vaincu l'ami très cher du roi de France, c'était mauvais début pour ce dernier. Le sacre se fit en fin septembre. M. d'Espagne était revenu. Et à Reims, on témoigna beaucoup de grâce à ce vaincu pour le consoler de sa défaite. À la mi-novembre, le connétable Raoul de Brienne, comte II, rentra en France. Il était depuis 4 ans captif du roi Édouard, mais un captif assez libre qu'on laissait à l'occasion aller entre les deux pays, car il était mêlé aux négociations d'une paix générale à laquelle nous travaillions fort en Avignon. Moi-même, je correspondais avec le connétable. Et cette fois, il venait réunir le prix de sa rançon. Je n'ai point à vous apprendre que Raoul de Brienne était un très haut, très grand, très puissant personnage, et pour ainsi dire le second homme du royaume. Il avait succédé en sa charge à son père, Raoul V, tué en tournoi. Il était tenant de vastes fiefs en Normandie, d'autres en Touraine, dont Bourgueil et Chinon, d'autres en Bourgogne, d'autres en Artois. Il possédait des terres pour l'heure confisquées en Angleterre et en Irlande. Il en possédait dans le pays de Vaud. Il était le cousin par alliance du comte Amédée de Savoie. Un tel homme, quand on vient juste de s'asseoir au trône, est de ceux qu'on traite avec quelques égards, ne croyez-vous pas, Archambault? Eh bien, notre Jean II, après lui avoir adressé au soir de son arrivée des reproches furieux mais peu clairs, commanda sur le champ de l'emprisonner, et le surlendemain matin, il le fit décapiter sans jugement. Non, aucune raison avouée. Nous n'avons pas pu en savoir plus à la Curie que vous à Périgueux. Et pourtant nous nous sommes employés à éclairer l'affaire, croyez-le. Pour expliquer cette exécution précipitée, le roi Jean affirma qu'il détenait les preuves écrites de la félonie du connétable, mais jamais il ne les produisit, jamais. Même au pape, qui le pressait dans son intérêt propre de révéler ces fameuses preuves, il opposa un silence buté. Alors, on commença dans toutes les cours d'Europe à chuchoter, supposer. On parla d'une correspondance amoureuse que le connétable aurait entretenue avec Madame Bonne de Luxembourg, et qui, après le décès de celle-ci, serait tombée entre les mains du roi. Ah, vous aussi, vous avez entendu cette fable. Étrange liaison, en vérité, et dont on apercevrait mal, en tout cas, qu'elle ait pu prendre un tour criminel entre une femme sans cesse enceinte et un homme presque continuellement captif depuis 4 ans. Peut-être y avait-il dans les lettres de messire de Brienne des choses pénibles à lire pour le roi, mais si ce fut, elle devait regarder plutôt sa propre conduite que celle de sa première épouse. Non, rien ne tenait qui pût expliquer cette exécution, sinon la nature haineuse et meurtrière du nouveau roi, semblable assez à la nature de sa mère, la méchante boiteuse. Le vrai motif se révéla peu après, quand la charge de connétable fut donnée, vous savez bien à qui, eh oui, à Monsieur d'Espagne, avec une partie des biens du défunt, dont toutes les terres et possessions furent distribuées entre les familiers du roi. Ainsi le comte Jean d'Artois en eut grosse part, le comte est deux. Les largesses de cette sorte font moins d'obligés qu'elles ne créent d'ennemis. Messire de Brienne avait foison de parents, d'amis, de vassaux, de serviteurs, toute une grande clientèle, fort attachée à lui, et qui aussitôt se mua en un réseau de mécontents. Comptez en plus des gens de l'entourage royal qui ne reçurent ni mie ni miette des dépouilles et en furent jaloux et revêches. Ah, nous avons bonne vue d'ici sur Chalus et ses deux châteaux. Comme ces deux hauts donjons se répondent bien, qu'une mince rivière sépare. Eh, le pays est plaisant au regard sous ces nuages qui courent bon train. La rue, je ne me méprends point, c'est bien devant le châtel de droite, sur la colline, que messire Richard Cœur de Lion fut durement navré d'une flèche qui lui ôta la vie. Ce n'est point d'aujourd'hui que les gens de nos pays ont accoutumé d'être assaillis par l'anglais et de s'en défendre. Non, la rue, je ne suis point là, je m'arrête seulement pour contempler. Mais certes, oui, j'ai bon pas. Je vais cheminer encore un petit et ma litière me reprendra plus avant. Rien ne nous presse trop, de Chalus à Limoges, si j'ai bon souvenir, il y a moins de 9 lieues. 3 heures et demie nous suffiront, sans forcer le trot. Soit 4 heures. Laissez-moi profiter des derniers beaux jours que Dieu nous dispense. Je serai bien assez renfermé derrière mes rideaux quand viendra la pluie.